Une rixe hier en fin d'après-midi près de l'Easy Market de Normandie. Des jeunes ont tenté de dérober l'ordinateur du gérant. Deux d'entre eux ont été placés en garde à vue. La justice, qui fait sa rentrée solennelle et dresse le bilan de son activité, elle est en hausse. La banque en ligne Bibank piratée mercredi. Les données personnelles de plusieurs milliers de Calédoniens pourraient être concernées. Sixième jour de guerre en Iran. Les frappes visent toujours les installations militaires et les gardiens de la révolution. 2500 frappes ont été effectuées depuis le début de la guerre, indique Washington. Et puis en football, le dernier quart de finale de la Coupe de France. Lens élimine Lyon et affrontera Toulouse en demi-finale. L'autre demi-finale opposera Strasbourg à Nice. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Exceptionnellement, pas de magazine Transparence à la fin de cette édition. Comme tous les vendredis, Elisabeth Noir place à un nouveau débat concernant les élections municipales.
Et oui, après Païta et Bouraille mardi, après le Mont d'Or mercredi et avant Nouméa qui sera mardi, un nouveau rendez-vous spécial municipal ce midi sur Radio Rythme Bleu. Ce sont les 6 têtes de liste en présence pour le scrutin à Dabéa qui seront dans nos studios. Ce sera donc le 4e débat que nous vous proposons pour ces élections municipales. Les invités seront Cynthia Jean de la liste Unir pour l'avenir, Vaïma Mouliava de Dabéa Collectif, Daniel Guanéré pour la liste Unis Solidarité Dabéa, Johan Le Courrieux, le maire sortant qui conduit la liste Dabéa avant tout, Muriel Malfard pour Passionnément Dabéa, et enfin Rachel Hochet de la liste Dabéa au service du peuple. Au programme de ce débat, la sécurité, l'aménagement urbain, le développement économique, en clair tous les enjeux de la campagne municipale à Dabéa. Un débat que vous animerez, Jean-François, à partir de midi, juste après votre journal.
Et on vous retrouvera, Elisabeth, à partir de 16h45, évidemment, pour l'autre rendez-vous du vendredi. C'est bien sûr le Club Politique.
Et au sommaire du Club Politique aujourd'hui, bien sûr, la campagne pour les élections municipales, puisque nous connaissons désormais la donne du scrutin avec la publication de toutes les listes, à l'exception de celle des 4 communes de moins de 1000 habitants, Bélep, Farino, Moindou et Saraméa. Nous reviendrons également sur le débat sur le code minier, qui a eu lieu au Congrès cette semaine, avec aussi la prise de position de Paul Néaoutine sur le sujet. Et puis nous nous interrogerons sur le blocage d'Hercal et sur les ratés de son déménagement à Tontouta. Si nous en avons le temps, nous consacrerons également un mot à la politique internationale et à la situation au Moyen-Orient. Un Club Politique qui, vous le disiez, débute cet après-midi à partir de 16h45.
On devrait en savoir plus en fin de journée sur la bagarre qui a éclaté hier à 17h30 devant l'Easy Market de Normandie, non loin du collège. Selon nos informations, plusieurs jeunes ont tenté de voler l'ordinateur du gérant du magasin. Le vigile de l'établissement s'est interposé, ainsi que des commerçants voisins, et une bagarre a éclaté. L'un des jeunes voleurs a ramassé un tesson de bouteille. Deux personnes ont été blessées dans la bagarre avec des entailles au bras ou à la tête. L'une d'entre elles a été soignée au Bédipôle. Les deux auteurs présumés de cette bagarre ont été interpellés par la BAC et sont toujours en garde à vue. La justice qui fait aussi sa rentrée, comme le veut la tradition. L'année judiciaire s'ouvre par les audiences solennelles de rentrée pour la cour d'appel et pour le tribunal de première instance. Le lancement de l'année judiciaire est aussi l'occasion de dresser le bilan de l'activité des juridictions et d'accueillir les nouveaux fonctionnaires au palais de justice. On retrouve Nicolas Legrand.
Oui, l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel, tout d'abord, a été ouverte à 9h par le premier président, Bruno Carl. Après avoir salué les nombreuses autorités civiles et militaires présentes, ont été officiellement installés les magistrats arrivés en fin d'année dernière sur le territoire, dont Hubert Ancène, président de chambre. Il est arrivé en septembre et a déjà présidé lors des dernières sessions d'assises de la Nouvelle-Calédonie. Il connaît le territoire pour y être venu à 4 reprises auparavant dans le cadre de la révision des listes électorales. La parole ensuite était donnée au procureur général Camille Biansoni. Lors de ses réquisitions, il a évoqué l'actualité, notamment la guerre en Iran, puis plus localement, le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la gestion des émeutes par l'État. Il déclare que l'état de droit est un héritage de l'histoire. Il exprime ensuite sa profonde gratitude à l'égard des forces de sécurité intérieure et des personnels de justice. On peut critiquer l'action de l'État à froid, mais on ne peut pas disqualifier sans nuance les efforts de ceux qui ont fait preuve de courage et de sang-froid pour traiter l'insurrection et ramener le calme, a-t-il déclaré. Enfin, il aura un mot pour la coutume. Il affirme que la justice est engagée dans la recherche de points de convergence avec le monde coutumier. Mais il critique le fait que certains se répandent, dans les médias notamment, pour affirmer que la justice n'a pas à faire son travail dès lors que la justice coutumière serait passée. L'audience solennelle de rentrée est aussi l'occasion de rendre compte de l'activité du ressort. En 2025, l'activité a été conforme à ce qui était attendu. Bruno Carl, le premier président de la Cour, a dressé donc le bilan de cette activité. On note toutefois une hausse significative des nouvelles affaires à la Cour d'assises, avec 33 dossiers arrivés en 2025 contre 24-25 environ les deux années précédentes. C'est pourquoi des audiences plus longues et des sessions plus longues sont prévues pour la fin de l'année notamment, histoire d'évacuer le stock des dossiers. Le budget de la Cour d'appel a lui augmenté de manière importante. La masse salariale augmente de 1,56% à 3,471 millions de francs. Quant au fonctionnement courant, il augmente lui de 11%. Lors de l'audience maintenant de rentrée du tribunal de première instance, le procureur de la République a dit que 2024 était l'année de la délinquance insurrectionnelle, 2025 l'année de la délinquance de la crise économique et sociale, avec des vols de nourriture notamment, mais aussi des nouveaux trafiquants de cannabis qui vendent de la drogue de manière illégale pour survivre. Le procureur évoque aussi les violences intrafamiliales. Ce sont désormais les enfants qui trinquent, lancera le procureur, avec une hausse significative des violences sur les mineurs, tandis que les violences conjugales déclarées, elles, ont reculé de 2%. Le procureur a donc annoncé ses priorités. Il faut davantage de moyens pour accueillir ces mineurs victimes de ces faits de violence. Les deux audiences solennelles de rentrée viennent donc de se terminer après une matinée de travaux. C'est donc un exercice qui peut sembler quelque peu cérémonieux, mais qui est finalement très important, puisque c'est le moment lors duquel la justice rend compte de son travail auprès des autorités civiles et militaires, et donc, in fine, de la société calédonienne. Au tribunal de Nouméa, Nicolas Lebrun, RRB.
Une fuite de données chez Bibunk, la banque en ligne, a été victime d'un piratage de données personnelles mercredi et des milliers de Calédoniens sont concernés, Léana Colombo.
Oui, en Nouvelle-Calédonie, il serait près de 11 000 usagers à se trouver exposés à des tentatives d'arnaque. En Polynésie française, il serait un peu plus de 500 et d'autres pourraient être concernés jusqu'à Wallis et Futuna. Même si le piratage a été détecté très rapidement, ce laps de temps aura été suffisant pour détourner les noms, les numéros de téléphone, les adresses mail et même les coordonnées bancaires. Laurent Rivaton, expert en cybercriminalité.
Quand il y a des fuites de données de ce type-là, on a des informations qui soit sont utilisables directement quand ce sont des comptes et des mots de passe qui ont été volés. Hein, donc à ce moment-là, potentiellement, c'est utilisable directement. C'est pas forcément le cas ici. Mais dans tous les cas, ces données personnelles, elles servent à identifier de manière plus ou moins précise les futures victimes parce qu'on a leur nom, leur prénom, éventuellement leur numéro de compte, des informations sur des transactions d'achat. Hein, tout un tas d'informations qui vont faire que derrière, un message d'arnaque pourra être fabriqué avec suffisamment d'éléments vrais de manière à ce que la victime ait confiance dans le message qu'elle reçoit et donc fasse ce que le cybercriminel souhaite, c'est-à-dire cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe ou des choses comme ça.
Des piratages qui se multiplient ces derniers mois. Bibunk a communiqué sur son site internet une série de recommandations pour déjouer les fraudes. Il faut donc redoubler de vigilance.
Si je suis client de Bibunk et que j'ai été informé qu'il y avait certaines de mes données avaient fuité, la bonne action, c'est d'être particulièrement vigilant, encore plus que d'habitude, parce que il y a des données sur moi qui ont fuité récemment et que donc elles vont probablement être utilisées dans d'autres types d'arnaques, type phishing, etc. Donc ça veut dire de la vigilance, ça veut dire se rappeler que un établissement bancaire va jamais demander un mot de passe à ses clients en parcours électronique. Que dès qu'il y a des histoires d'argent, de choses à payer, il faut être vigilant, il faut vérifier. Et donc là, les clients, le mieux, c'est s'ils reçoivent une campagne qui leur semble bizarre ou inhabituelle, c'est de contacter Bibunk pour demander est-ce que vous faites bien une campagne de ci ou de ça. Et à ce moment-là, ils vous répondront probablement non, pas du tout. Et le courrier électronique, il part à la poubelle directement.
Laurent Rivaton, expert en cybercriminalité. En cas de doute, Bibunk est joignable directement par téléphone au 30 55 10 30 55 10 ou par mail à contact@bibunk.com.
Une semaine sans avion, la partie de l'aérogare de la Tontouta désormais destinée à accueillir les voyageurs d'Aircal est restée vide depuis le début du transfert des activités de la compagnie domestique de Magenta vers Tontouta. Les aérodromes de Maré, Lifou, Ouvéa et l'île des Pins sont toujours bloqués par les collectifs d'usagers opposés à ce transfert. Il est 11h40, une première pause dans ce journal. Nous partirons dans un instant visiter les travaux du Salon de la Femme qui s'est ouvert à Nouville.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ça bouge aux occasions du village automobile. Découvrez notre tout nouveau parking d'occasion avec plus de 200 véhicules contrôlés, garantis au meilleur prix. Pick-up, SUV, citadine, bon plan prêt à partir. Faites le choix gagnant aujourd'hui. Et pour les véhicules neufs, c'est aussi au village automobile. Avec 11 grandes marques et des remises spéciales rentrées exceptionnelles. Véhicules neufs ou d'occasion, une seule adresse. Le village automobile au PK4 à Nouméa. Offre valable du 23 février au 10 mars. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Passez à l'eau chaude solaire et faites des économies toute l'année. Avec la prime Éco-Énergie, bénéficiez d'une aide de 25% du coût hors taxe de l'installation jusqu'à 100 000 francs pour un chauffe-eau solaire individuel. Moins d'énergie consommée, plus d'économies réalisées. Alors profitez-en.
Plus d'informations sur la page Facebook de l'Agence Calédonienne de l'Énergie ou chez les installateurs partenaires de l'opération.
Nico Sushi Bar, votre restaurant sushi depuis 1998. Sur place de 11h à 14h et à emporter de 9h à 19h30. Mardi et samedi, tous les sushis à 350 francs. Mercredi, moins 15% pour les familles. Et vendredi soir, sushi à volonté. Téléphone 25 11 88, Facebook Nico Sushi Bar.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Un salon au féminin jusqu'à dimanche à Nouville. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, Pacific Fair propose en effet la 19e édition du Salon des femmes, Léana.
80 exposants sont présents à la salle d'exposition de Nouville, ex-maison des artisans. L'occasion de découvrir les différents espaces du salon, bien-être, beauté, sport, nutrition ou encore mode. Et en plus des stands, les visiteurs peuvent découvrir des expositions, entendre des témoignages et participer à des ateliers. Ce matin, un atelier cuisine était proposé par une marque bien connue des Calédoniens.
L'idée, c'est de proposer des petites recettes simples et faciles à refaire à la maison avec tous les produits Arnott et tout ça à base de petits biscuits.
C'est très intéressant, on apprend plein de choses.
Et on commence juste l'atelier, hein, donc on a vu qu'on pouvait faire plein de petites préparations à base de biscuits et on va découvrir.
Ici, on va avoir les fonds de tarte avec les biscuits broyés. Là, on prépare les truffes biscuitées pour pouvoir tout mettre au frais ou faire cuire et pouvoir s'en servir pour finaliser nos préparations après.
Moi, j'y participe.
Par curiosité et puis voilà, comme j'ai su que c'était pour travailler avec les gâteaux Arnott, c'est tout. Puis comme ma femme, elle adore ça.
C'est toute mon enfance, hein, la marque Arnott. J'en ai vu passer des styles comme Tintam, voilà, plein d'autres variétés de gâteaux. Je suis contente d'être là aujourd'hui, c'est enrichissant pour moi.
Les visiteurs étaient nombreux à s'être déplacés en ce vendredi matin et beaucoup avaient déjà trouvé leur bonheur dans les allées.
C'est très joli. Puis bah, c'est pour faire des petits cadeaux pour la famille en France. Donc du coup, on profite, mais c'est joli.
C'est très très bien. Moi, j'adore venir là, promener, acheter. J'ai eu de la chance aujourd'hui. Je suis rentrée à l'entrée, là, j'ai joué à la roue. J'ai gagné un lessive. Et là, j'ai gagné une troisième fois, là encore. Je suis contente pour ma journée.
Je trouve très très bien. J'ai trouvé ce qu'il me faut.
Je viens de Tahiti. C'est très bien de mettre en valeur les femmes.
Le salon est très très beau. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de perles. C'est le paradis des perles. On adore. Mais dans un stand là, j'y vais pour dépenser la carte.
Le 19e Salon des femmes, c'est jusqu'à ce soir, 19h. Demain, de 9h à 18h. Puis de 9h à 17h le dimanche 8 mars à la salle d'exposition de Nouville, ex-maison des artisans.
Et comme chaque année, les institutions se mobilisent pour cette journée internationale du droit des femmes. La province sud présente sur le Salon des femmes doit aussi diffuser l'édition 2026 du guide du droit des femmes et des familles. La province sud met aussi à disposition des partenaires un fonds d'exposition consacré aux droits des femmes. À Dumbéa, les femmes seront fêtées dimanche au parc Fayard. Une fresque, des animations, des concerts et des ateliers auront lieu pendant le marché et le vide-grenier. Enfin, la ville de Noumoa propose deux événements dimanche. À 16h, des matchs d'improvisation au parc urbain de Sainte-Marie sur des thèmes liés aux femmes. Et puis concerts à partir de 17h30 au parc de loisirs de Lansvata avec notamment Tissier et Esther Wamedjou. Une cérémonie de remise de diplôme hier soir aux étudiants du centre de formation par alternance de la CCI. 63 étudiants ont reçu leur diplôme. Ces lauréats de la promotion 2025 ont décroché en un ou deux ans l'un des 12 titres ou diplômes proposés par le centre de formation de la CCI dans les domaines du commerce, du service aux entreprises, du médico-social, de la logistique ou du numérique. Écoutez l'émotion et la fierté de Jezabel qui a fait deux ans d'alternance et de Patrick qui était en alternance, lui, pendant un an.
Isabelle Carré. Je viens d'obtenir mon BTS comptabilité et gestion à la CCI en alternance. C'était deux ans de travail à la maison, à l'école, au travail aussi en entreprise. Alors, il faut savoir que j'ai commencé dans une première entreprise, Soprotec. C'était une petite quincaillerie de Ducos, vraiment, vraiment bien. Mais avec les émeutes, ben, le magasin a pris feu, donc notre bureau a pris feu et malheureusement, j'ai dû être licenciée. Et donc, ben, j'ai réussi à retrouver une entreprise, la Calédonienne des Eaux. Et bah, qui m'a permis d'obtenir mon BTS. Quoi. Je les remercie vraiment parce que je sais pas ce que j'aurais fait. Franchement, j'étais un peu en train de partir en dépression parce que je trouvais pas trop d'entreprise. Donc j'étais vraiment, vraiment contente. Quoi.
Patrick Camiche, et j'ai passé le titre professionnel de développeur web et web mobile au sein de la CCI. Une année intense qui s'est achevée dans la difficulté, il y a eu entre parenthèses. Non, ça représente juste de la fierté. On est allé jusqu'au bout avec les différents collègues et c'est une bonne chose.
Un des propos recueillis par Kélinda Boiscou. Des sapeurs-pompiers de Nouméa ont eux aussi été récompensés hier. Certains ont même reçu des distinctions lors d'une cérémonie à la caserne Lucien Parent. Le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, et le commandant Géraldine de Bourgoin ont remis des grades, des médailles et des diplômes à 20 sapeurs-pompiers et 16 jeunes sapeurs-pompiers qui étaient entourés par leur famille.
C'est une cérémonie qu'on fait chaque année pour mettre effectivement en valeur l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, de nos nageurs sauveteurs et puis également de nos jeunes sapeurs-pompiers. C'est une décision qui vit, c'est une décision qui évolue, qui s'adapte. C'est important effectivement de les mettre à l'honneur par rapport à ça et une remise de grade est toujours importante. C'est le travail d'une année, une année encore bien complète, bien intense, donc faire reconnaître l'engagement de tous et puis rappeler aussi qu'on est là au service de la population et voilà, pas oublier le sens de notre travail.
Voilà, Géraldine Bourgoin, chef de corps des pompiers de Nouméa. Notez que 16 sapeurs-pompiers volontaires et 4 sapeurs-pompiers professionnels ont été promus au grade supérieur. Parmi eux, le commandant Guépy, chef du service du centre de secours de la ville de Nouméa.
J'en suis très fier, d'autant plus que l'examen que la ville a organisé, les sujets ont été rédigés par un service départemental de métropole et corrigés par des officiers supérieurs de métropole. Et donc ma réussite à cet examen, pour moi, elle est double. C'est-à-dire qu'on a un Calédonien qui montre qu'il a le niveau pour être commandant. Donc c'est une opportunité pour nos jeunes de continuer. Et personnellement, c'est également une grande fierté par rapport à mon père, qui était le directeur adjoint de la sécurité civile et qui était commandant de sapeurs-pompiers également. Beaucoup d'émotions, surtout que cette cérémonie-là, elle a mis en lumière plusieurs collègues, notamment un qui vient de prendre ses fonctions en tant que directeur adjoint à la sécurité civile, le commandant Thomas Depardon. Ça faisait 25 ans qu'on travaille ensemble. Et le major Thierry Lévesque, l'ancien chef de centre du centre de secours et de surveillance nautique, qui a œuvré et créé de toutes pièces ce centre, qui est donc parti à la retraite et on lui a rendu hommage également. Donc oui, c'est une cérémonie au-delà de mon grade qui est très importante pour le corps des sapeurs-pompiers de Nouméa. Oui.
Une cérémonie à laquelle le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, a bien évidemment assisté. Avant une nouvelle pause dans ce journal, je vous rappelle, et c'est peut-être votre jour de chance, que c'est aujourd'hui qu'aura lieu le tirage justement de notre jeu chance. Pour pouvoir évidemment avoir la chance d'être tiré dans le jeu chance, il faut avoir envoyé chance au 40-20. Voilà, la chance sur Radio Rythme Blé. Vous envoyez chance au 40-20. Attention, c'est un très beau cadeau qui est en jeu, Pierre.
Et oui, en effet, des repas Aquavena, et c'est d'une valeur de 140 000 francs, Jean-François. C'est des plats frais et savoureux proposés à la carte ou en menu avec un large choix, hein, cuisine classique, diététique, végétarienne, sans gluten ou encore méditerranéenne. Enfin, c'est pour se faire plaisir tout en mangeant équilibré.
Voilà, c'est peut-être pour vous. Donc n'hésitez pas, envoyez chance au 40-20, vous avez encore le temps de le faire. Vous pouvez le faire plusieurs fois, bien évidemment. Le tirage au sort, ce sera tout à l'heure à 14h. Une nouvelle pause et dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Et si votre prochain repas vous faisait gagner gros? Avec la casserolette, tentez de remporter un Samsung Galaxy 5G, des tablettes et jusqu'à un an de repas offerts. Pour jouer, direction la page Facebook La Casserolette. Je répète, la page Facebook La Casserolette. Likez, commentez le visuel avec la bonne réponse et c'est parti. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Au fait, depuis peu, on vous attend 69 route du Port des Pointes, Faubourg Blanchot. La casserolette, le goût, le jeu, le plaisir.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 40-20. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance!
Jusqu'au 14 mars, à suivre et vivez le tournoi destination 2026 sur Radio Rythme Bleu avec Elia by OPT. Rendez-vous sur notre site elia.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. Elia, au cœur de toutes les collections.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal d'actualité à l'étranger avec Jean-François Bodin.
Oui, avec le sixième jour de guerre en Iran, toujours visé par les frappes américano-israéliennes depuis le début des opérations militaires. L'armée américaine a procédé à 2500 frappes et utilisé pour cela 6000 munitions. Ces frappes visent essentiellement les installations militaires, mais aussi les gardiens de la Révolution. Washington estime que 80% des moyens aériens de l'armée iranienne et 60% de ses lanceurs de missiles balistiques sont désormais détruits. Même décapité, le régime des Mollahs tient toujours, mais la transition semble inévitable. Et un homme se prépare à revenir dans son pays, le fils du Shah d'Iran. Son père avait été chassé du pouvoir lorsque les Mollahs ont pris Téhéran il y a maintenant 47 ans. Reza Pahlavi appelle à un changement complet de l'appareil d'État iranien.
La façon d'avoir une solution le plus rapide, c'est qu'il faut qu'il y ait une coupure totale de ce régime, c'est-à-dire au niveau de légitimité. Mes compatriotes n'accepteront pas quelque chose à mi-cuit. Ce n'est pas le restant de ce régime qui représente une alternative plausible ou même, dirais-je, légitime. Il faut qu'il y ait une coupure nette, parce que c'est seul dans cette transition vers une démocratie laïque. Et je ne pense pas qu'il reste un élément rattaché à ce régime qui représente ce fait ou qui est la confiance du peuple, qu'à ce moment, les gens sont confortables à trouver l'alternative réelle. Il faut que dans l'optique de la politique étrangère des gouvernements qui actuellement, y compris Israël et l'Amérique bien entendu, qui sont les plus engagés dans ce conflit, de comprendre que la solution, l'alternative doit aussi être légitime pour avoir vraiment une solution et qui permettra de raccourcir cette période de conflit.
Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, interrogé par nos confrères d'Europe 1. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit ses opérations, elle, au sud Liban. Elle vise évidemment le Hezbollah, groupe terroriste et milice chiite, armée et soutenue par le régime iranien. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont obligées de fuir les zones de frappe. Le président français appelle, lui, à la paix au Liban. S'il a choisi son camp sur cette partie du conflit, le camp de la paix, a dit-il. Emmanuel Macron reste encore, en revanche, très flou sur l'opération américano-israélienne en Iran. Ce qui se joue en ce moment va sans doute redessiner la carte géopolitique de la région. C'est donc une période charnière, mais pour Emmanuel Macron, c'est une nouvelle fois en même temps.
L'état-major français annonce ouvrir temporairement ses bases militaires du Moyen-Orient aux avions américains. En même temps, Emmanuel Macron se dit solidaire de l'Espagne qui refuse de faire la même chose. Un jeu d'équilibriste défendu par la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon.
La France travaille à soutenir ses partenaires régionaux dans une posture qui est une posture défensive pour les accompagner à garantir leur sécurité et, je le redis, contenir ce conflit pour éviter autant que possible l'escalade régionale et l'embrasement.
Dans la résolution de ce conflit, la France est encore une fois sur une ligne de crête. D'un côté, Emmanuel Macron renforce la présence militaire française dans la région. Une frégate est arrivée à Chypre. Le porte-avions Charles de Gaulle est en route pour la Méditerranée. La mer Rouge est sécurisée et une coalition tente de reprendre le détroit d'Ormuz à Téhéran. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot renoue avec son homologue iranien dans les espoir de trouver un accord qui mette fin à ce conflit. Mais en réalité, cette initiative a très peu de chances d'aboutir car les États-Unis et l'Iran refusent toute négociation.
Les explications d'Alexis de la Fontaine pour Europe 1. La France qui essaye aussi d'organiser le rapatriement de ses ressortissants coincés dans la région. Un avion d'Air France a décollé de Paris pour aller chercher des ressortissants français sur place, mais il a dû faire demi-tour en raison des tirs de missiles. Des rapatriements également organisés dans la région par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a déclaré que le contexte sécuritaire de l'ensemble du Moyen-Orient est, je cite, « évolutif, dangereux et complexe », raison pour laquelle il continue d'examiner toutes les options possibles. Il a ainsi annoncé que deux appareils Hercule C-130 ont donc été déployés dans la région afin d'être prêts à intervenir si les conditions le permettent. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a indiqué de son côté qu'un avion de transport C-17 Globemaster et un ravitailleur en vol KC-30 ont été déployés au Moyen-Orient dans le même but. Pour d'évidentes raisons de sécurité, la base aérienne où ils se sont posés n'a toutefois pas été dévoilée. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier et 56 personnes des personnes interrogées pensent que les pays européens, dont la France, doivent se joindre aux États-Unis et à Israël pour mener la guerre contre l'Iran. Ils sont 44% à être d'un avis contraire. Et puis voici notre question du jour. Êtes-vous inquiet des éventuelles hausses de prix, notamment sur les carburants et les transports en raison de la guerre au Moyen-Orient? Si vous êtes inquiet, vous tapez 1. Si vous ne l'êtes pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31 46. mot de l'actualité en métropole, en bref, et le policier qui a tiré sur le jeune Naël en novembre 2023 sera renvoyé devant une cour criminelle. Il ne sera donc pas jugé en assise. La cour d'appel de Versailles a rendu sa décision concernant ce policier à l'origine du tir mortel sur Naël, 17 ans, en juin 2023 à Nanterre, lors d'un refus d'obtempérer. Les faits ont donc été requalifiés. Le policier sera jugé pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non plus pour meurtre. À 11h56, la dernière pause de ce journal. Dans un instant, la page sport et ensuite le débat spécial municipal sur Dumbéa.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Rendez-vous à l'Hyper Auto Show du groupe Jando sur le parking du centre commercial Hyper Upaita du samedi 28 février au dimanche 8 mars. Plus de 10 marques représentées, des nouveautés hyper exclusives, des déstockages hyper massifs, des promos hyper intéressantes, des jeux, des animations et des solutions de financement. Ce serait hyper dommage de rater ça. L'Hyper Auto Show jusqu'au 8 mars au centre commercial Hyper Upaita, un salon organisé par le groupe Jando. Plus d'infos sur la page Facebook. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Élection municipale à Nouméa. Information pratique. Le scrutin se tiendra le dimanche 15 mars de 8h à 18h.
Les bureaux de vote ont été regroupés et répartis dans 8 lieux de vote à Nouméa. L'hôtel de ville, la salle de sport Wawanabou à Lansvata, la salle Jean Noyant à Lansvata, le collège Jean Lec à Magenta, le collège François Oliveau aux Portes de Fer, le groupe scolaire Marie Courteau Henriette Gervolino au 6e kilomètre, le centre culturel Kowekara, le groupe scolaire Céline Tessandier de Lobarède à la Vallée du Tir.
Pour connaître votre lieu de vote, contactez le 27 31 15. Consultez le site internet www.nouméa.nc ou rendez-vous directement à l'hôtel de ville. En cas de second tour, les mêmes lieux de vote seront conservés.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal avec Jean-François Baudin.
Tout le sport avec d'abord du football et on va commencer par la Coupe de France. Lens, Toulouse et Strasbourg-Nice, ce seront donc les affiches des demi-finales de la Coupe de France, Léo Fichou.
Oui, le dernier quart de finale de cette 109e édition se opposait ce matin l'Olympique Lyonnais au RC Lens. Un choc entre deux équipes qui sont actuellement sur le podium de la Ligue 1. Les Lensois menaient 2-0 jusqu'à la 67e minute, mais les Gones n'ont rien lâché. Ils ont égalisé au bout du temps additionnel. De partout, c'est le score final, mais au tir au but, ce sont donc les 100 et or qui s'imposent, grâce notamment à un arrêt décisif du gardien Robin Risseur.
Je pense que je fais pas ce qu'il faut sur le dernier but, donc je finis ce match avec de la frustration. Mais derrière, voilà, le penalty, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis content d'avoir pu aider l'équipe pour passer au tour suivant. Et voilà, je m'éclate au quotidien ici. Je trouve que c'est un club formidable, avec des gens formidables qui entourent l'équipe, les supporters, tout le monde. Et ce qui est cool, c'est qu'on va tous dans la même direction, dans le même sens. Et je suis convaincu que cette année, on peut continuer à prendre beaucoup de plaisir, à en donner. Et j'espère vivre encore de grandes émotions pour ce club.
Lens qui recevra donc Toulouse, Strasbourg qui accueillera Nice, ce sont les deux demi-finales de la Coupe de France, elles se joueront le 23 avril prochain.
Performance, engagement, dépassement de soi, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
C'est évidemment du rugby. Le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé la composition du 15 de France qui affrontera l'Écosse ce week-end. Rencontre pour la quatrième journée du tournoi destination. On signalera trois retours de blessures, ceux de Mathieu Jalibert, Nicolas Deporter et Yoram Morefana. Les trois joueurs de l'UBB, ils seront titulaires. Les deux autres Calédoniens, des Toulousains, Peato Mahovaca et Rodrigue Netti, sont remplaçants. Écosse-France, ce sera donc à suivre dès 1h10 dans la nuit de samedi à dimanche. Notez qu'en cas de victoire bonifiée, les Bleus remporteront le tournoi destination avant même la dernière journée. Les autres rencontres du week-end, demain à 7h10, l'Irlande recevra le Pays de Galles. Enfin, à 3h40 dans la nuit de samedi à dimanche, juste après France-Écosse, l'Italie accueillera l'Angleterre.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Et on termine avec du squash sur le territoire. Nicolas Mastet va encore devoir trouver de la place dans son armoire à trophées, Léo.
Et le joueur de l'Olympique de Nouméa est imbattable. Il a remporté hier soir l'Open d'ouverture. C'est le premier tournoi de la saison, un tournoi qui rassemblait près de 50 joueurs. En finale, Nicolas Mastet a dominé dans ce qu'on appelle désormais le classico du squash calédonien, Gaël Gosse, de l'association Squash Plaisance, une victoire nette, 3-0. Un début de saison parfait pour Nicolas Masnet.
Tout s'est bien passé pour moi du premier jour jusqu'au dernier, avec une bonne ambiance dans la salle, des bonnes énergies, et voilà, un nouveau titre à la clé. quand on est sportif, on n'en a jamais assez hein, quand on aime la compétition. Donc voilà, moi je fais ce qu'il faut pour rester à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'à un moment, forcément, ça s'arrêtera. Mais pour l'instant, je prends et je profite. L'objectif final, ça reste les Jeux du Pacifique à Tahiti en 2027. Donc on est en train de mettre ça en place avec le coach, la ligue, etc. Après, c'est toujours compliqué hein, dans le contexte actuel pour avoir les moyens, etc. Mais on est en train de se faire un petit planning sympa. Donc, il y aura au moins, je pense, un ou deux déplacements, histoire de prendre du rythme et d'aller se confronter un peu à l'extérieur. Et puis après, des entraînements toujours pareils avec des tournois locaux et des entraînements avec le coach et avec toute l'équipe de Calédonie, comme on a l'habitude.
Nicolas Massenet, vainqueur donc de l'Open d'ouverture hier soir, qui vise cette année un 10e titre de champion de Calédonie de squash.
C'est la fin de ce journal.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.